La petite fadette de George Sand, lu par Johan pour audiocité.net. Chapitre 30. Landry se soumit et revint à la vendange, bien surpris de ne pas se trouver malheureux comme il s'y était attendu. Tant c'est une grande douceur de se savoir aimer, et tant la foi est grande quand on aime grandement. Il était si étonné et si aise qu'il ne put se défendre d'en parler à Cadet Caillot, lequel s'étonna aussi et admira la petite fadette pour avoir si bien su se défendre de toute faiblesse et de toute imprudence depuis le temps qu'elle aimait Landry et qu'elle en était aimée. « Je suis content de voir, lui dit-il, que cette fille-là a tant de qualités, car, pour mon compte, je ne l'ai jamais mal jugée, et je peux même dire que si elle avait fait attention à moi, elle ne m'aurait point déplu. À cause des yeux qu'elle a, elle m'a toujours semblé plutôt belle que laide. Et depuis un certain temps, tout le monde aurait bien pu voir, si elle avait voulu plaire, qu'elle devenait chaque jour plus agréable. Mais elle t'aimait uniquement, Landry, et se contentait de ne point déplaire aux autres. Elle ne cherchait d'autre approbation que la tienne, et je te réponds qu'une femme de ce caractère-là m'aurait bien convenu. D'ailleurs, si petite et si enfant que je l'ai connue, j'ai toujours considéré qu'elle avait un grand cœur, et si l'on allait demander à chacun de dire en conscience et en vérité ce qu'il en pense et ce qu'il en sait, chacun serait obligé de témoigner pour elle. Mais le monde est fait comme cela que, quand deux ou trois personnes se mettent après une autre, toutes s'en mêlent, lui jettent la pierre et lui font une mauvaise réputation sans trop savoir pourquoi, et comme si c'était pour le plaisir d'écraser qui ne peut se défendre. Landry trouvait un grand soulagement à entendre résonner Cadet Caillot de la sorte. Et depuis ce jour-là, il fit une grande amitié avec lui et se consola un peu de ses ennuis en les lui confiant. Et mêmement, il lui dit un jour « Ne pense plus à cette Madelon qui ne vaut rien et qui nous a fait des peines à tous deux, mon brave cadet. Tu es de même âge et rien ne te presse de te marier. Or, moi, j'ai une petite sœur, Nanette, qui est jolie comme un cœur, qui est bien élevée, douce, mignonne, et qui prend 16 ans. Viens nous voir un peu plus souvent. Mon père t'estime beaucoup, et quand tu connaîtras bien notre Nanette, tu verras que tu n'auras pas de meilleure idée que celle de devenir mon beau-frère. » « Ma foi, je ne dis pas non, répondit Cadet, et si la fille n'est point accordée par ailleurs, j'irai chez toi tous les dimanches. » Le soir du départ de Fanchon-Fadet, Landry voulut aller voir son père pour lui apprendre l'honnête conduite de cette fille qu'il avait mal jugée, et en même temps pour lui faire, sous toute réserve quant à l'avenir, ses soumissions quant au présent. Il eut le cœur bien gros en passant devant la maison de la mère Fadet, mais il s'arma d'un grand courage en se disant que, sans le départ de Fanchon, il n'aurait peut-être pas su de longtemps le bonheur qu'il avait d'être aimé d'elle. Et il vit la mère Fanchette, qui était la parente et la marraine à Fanchon, laquelle était venue pour soigner la vieille et le petit à sa place. Elle était assise devant la porte, avec le sautorio sur ses genoux. Le pauvre Jeannet pleurait et ne voulait point aller au lit, parce que sa Fanchon n'était point encore rentrée, disait-il, et que c'était à elle à lui faire dire ses prières et à le coucher. La mère Fanchette le réconfortait de son mieux, et Landry entendit avec plaisir qu'elle lui parlait avec beaucoup de douceur et d'amitié. Mais sitôt que le sauterio vit passer Landry, il s'échappa des mains de la Fanchette, au risque d'y laisser une de ses pattes, et courut se jeter dans les jambes du Besson, l'embrassant et le questionnant et le conjurant de lui ramener sa Fanchon. Landry le prit dans ses bras et, tout en pleurant, le consola comme il put. Il voulut lui donner une grappe de beaux raisins qu'il portait dans un petit panier, de la part de la mère Caillot à la mère Barbeau. Mais Jeannet, qui était d'habitude assez gourmand, ne voulut rien, sinon que Landry lui promettrait d'aller quérir sa Fanchon, et il fallut que Landry le lui promît en soupirant, sans quoi il ne se fût point soumis à la Fanchette. Le père Barbeau ne s'attendait guère à la grande résolution de la petite fadette. Il en fut content, mais il eut comme du regret de ce qu'elle avait fait, tant il était homme juste et de bon cœur. « Je suis fâché, Landry, dit-il, que tu n'aies pas eu le courage de renoncer à la fréquenter. Si tu avais agi selon ton devoir, tu n'aurais pas été la cause de son départ. Dieu veuille que cet enfant n'ait pas à souffrir dans sa nouvelle condition, et que son absence ne fasse pas de tort à sa grand-mère et à son petit frère. Car s'il y a beaucoup de gens qui disent du mal d'elle, il y en a aussi quelques-uns qui la défendent, et qui m'ont assuré qu'elle était très bonne et très serviable pour sa famille. Si ce qu'on m'a dit qu'elle est enceinte est une fausseté, nous le saurons bien, et nous la défendrons comme il faut. Si, par malheur, c'est vrai et que tu en sois coupable, Landry, nous l'assisterons et ne la laisserons pas tomber dans la misère. Que tu ne l'épouses jamais, Landry, voilà tout ce que j'exige de toi. Mon père, dit Landry, nous jugeons la chose différemment, vous et moi. Si j'étais coupable de ce que vous pensez, je vous demanderais, au contraire, votre permission pour l'épouser. Mais comme la petite Fadette est aussi innocente que ma sœur Nanette, je ne vous demande rien encore que de me pardonner le chagrin que je vous ai causé. Nous parlerons d'elle plus tard, ainsi que vous me l'avez promis. » Il fallut bien que le père Barbeau en passât par cette condition de ne pas insister davantage. Il était trop prudent pour brusquer les choses et se devait tenir pour content de ce qu'il avait obtenu. Depuis ce moment-là, il ne fut plus question de la petite Fadette à la Bessonnière. On évita même de la nommer, car Landry devenait rouge et tout aussitôt pâle quand son nom échappait à quelqu'un devant lui, et il était bien aisé de voir qu'il ne l'avait pas plus oublié qu'au premier jour. Chapitre 31. D'abord, Sylvinet eut comme un contentement d'égoïste en apprenant le départ de la Fadette, et il se flatta que dorénavant, son Besson n'aimerait que lui et ne le quitterait plus pour personne. Mais il n'en fut point ainsi. Sylvinet était bien ce que Landry aimait le mieux au monde après la petite Fadette. Mais il ne pouvait se plaire longtemps dans sa société parce que Sylvinet ne voulut point se départir de son aversion pour Fanchon. Aussitôt que Landry essayait de lui en parler et de le mettre dans ses intérêts, Sylvinet s'affligeait, lui faisait reproche de s'obstiner dans une idée si répugnante à leurs parents et si chagrinante pour lui-même. Landry, dès lors, ne lui en parla plus. Mais comme il ne pouvait pas vivre sans en parler, il partageait son temps entre Cadécaillot et le petit Jeannet, qui l'emmenait promener avec lui, à qui il faisait répéter son catéchisme, et qui l'instruisait et consolait de son mieux. Et quand on le rencontrait avec cet enfant, on se fût moqué de lui, si l'on eût osé. Mais, outre que Landry ne se laissait jamais bafouer en quoi que ce soit, il était plutôt fier que honteux de montrer son amitié pour le frère de Fanchon Fadet. Et c'est par là qu'il protestait contre le dire de ceux qui prétendaient que le père Barbeau, dans sa sagesse, avait bien vite eu raison de cet amour-là. Sylvinet, voyant que son frère ne revenait pas autant à lui qu'il l'aurait souhaité, et se trouvant réduit à porter sa jalousie sur le petit Jeannet et sur Cadécaillot, voyant, d'un autre côté, que sa sœur Nanette, laquelle, jusqu'alors, l'avait toujours consolé et réjoui par des soins très doux et des attentions mignardes, commençait à se plaire beaucoup dans la société de ce même Cadécaillot, dont les deux familles approuvaient fort l'inclination. Le pauvre Sylvinet, dont la fantaisie était de posséder à lui tout seul l'amitié de ceux qu'il aimait, tomba dans un ennui mortel, dans une langueur singulière, et son esprit se rembrunit si fort qu'on ne savait par où le prendre pour le contenter. Il ne riait plus jamais, il ne prenait goût à rien, il ne pouvait plus guère travailler, tant il se consumait et s'affaiblissait. Enfin, on craignit pour sa vie, car la fièvre ne le quittait presque plus, et quand il l'avait un peu plus que d'habitude, il disait des choses qui n'avaient pas grand raison et qui étaient cruelles pour le cœur de ses parents. Il prétendait n'être aimé de personne, lui qu'on avait toujours choyé et gâté plus que tous les autres dans la famille. Il souhaitait la mort, disant qu'il n'était bon à rien, qu'on l'épargnait par compassion de son état, mais qu'il était une charge pour ses parents et que la plus grande grâce que le bon Dieu pût leur faire, ce serait de les débarrasser de lui. Quelquefois, le père Barbeau, entendant ces paroles peu chrétiennes, l'en blâmait avec sévérité. Cela n'amenait rien de bon. D'autres fois, le père Barbeau le conjurait en pleurant de mieux reconnaître son amitié. C'était encore pire. Sylvinet pleurait, se repentait, demandait pardon à son père, à sa mère, à son Besson, à toute sa famille. Et la fièvre revenait plus forte après qu'il avait donné cours à la trop grande tendresse de son cœur malade. On consulta les médecins à nouveau. Ils ne conseillèrent pas grand-chose. On vit à leur mine qu'ils jugeaient que tout le mal venait de cette bessonnerie qui devait tuer l'un ou l'autre, le plus faible des deux conséquemment. On consulta aussi la baigneuse de Clavières, la femme la plus savante du canton, après la sagette, qui était morte, et la mère Fadet, qui commençait à tomber en enfance. Cette femme habile répondit à la mère Barbeau. « Il n'y aurait qu'une chose pour sauver votre enfant, c'est qu'il aima les femmes. » « Et justement, il ne les peut souffrir, » dit la mère Barbeau. « Jamais on n'a vu un garçon si fier et si sage. Et depuis le moment où son Besson s'est mis l'amour en tête, il n'a fait que dire du mal de toutes les filles que nous connaissons. Il les blâme toutes de ce qu'une d'entre elles, et malheureusement ce n'est pas la meilleure, lui a enlevé, comme il prétend, le cœur de son Besson. « Eh bien, » dit la baigneuse, qui avait un grand jugement sur toutes les maladies du corps et de l'esprit, « votre fils Sylvinet, le jour où il aimera une femme, l'aimera encore plus follement qu'il n'aime son frère. Je vous prédis cela. Il a une surabondance d'amitié dans le cœur, et pour l'avoir toujours porté sur son Besson, il a oublié quasiment son sexe. Et en cela, il a manqué à la loi du bon Dieu, qui veut que l'homme chérisse une femme plus que père et mère, plus que frère et sœur. Consolez-vous pourtant, il n'est pas possible que la nature ne lui parle pas bientôt, quelque retardé qu'il soit dans cette idée-là. Et la femme qu'il aimera, qu'elle soit pauvre ou laide ou méchante, n'hésitez point à la lui donner en mariage, car, selon toute apparence, il n'en aimera pas deux en sa vie. Son cœur a trop d'attache pour cela, et s'il faut un grand miracle de nature pour qu'il se sépare un peu de son Besson, il en faudrait un encore plus grand pour qu'il se séparât de la personne qu'il viendrait à lui préférer. » L'avis de la baigneuse parut fort sage au père Barbeau, et il essaya d'envoyer Sylvinet dans les maisons où il y avait de belles et bonnes filles à marier. Mais, quoique Sylvinet fût joli garçon et bien élevé, son air indifférent et triste ne réjouissait pas le cœur des filles. Elles ne lui faisaient aucune avance, et lui qui était si timide, il s'imaginait, à force de les craindre, qu'il les détestait. Le père Caillot, qui était le grand ami et un des meilleurs conseils de la famille, ouvrit alors un autre avis. « Je vous ai toujours dit, fit-il, que l'absence était le meilleur remède. Voyez Landry, il devenait insensé pour la petite Fadette, et pourtant, la petite Fadette partie, il n'a perdu ni la raison ni la santé. Il est même moins triste qu'il ne l'était souvent, car nous avions observé cela, et nous n'en savions point la cause. À présent, il paraît tout à fait raisonnable et soumis. Il en serait de même de Sylvinet, si, pendant 5 ou 6 mois, il ne voyait point du tout son frère. Je vais vous dire le moyen de les séparer tout doucement. Ma ferme de la Priche va bien, mais, en revanche, mon propre bien, qui est du côté d'Arton, va au plus mal, à cause que, depuis environ 1 an, mon colon est malade et ne peut se remettre. Je ne veux point le mettre dehors, parce qu'il est un véritable homme de bien. Mais si je pouvais lui envoyer un bon ouvrier pour l'aider, il se remettrait, vu qu'il n'est malade que de fatigue et de trop grand courage. Si vous y consentez, j'enverrai donc Landry passer dans mon bien le reste de la saison. Nous le ferons partir sans dire à Sylvinet que c'est pour longtemps. Nous lui dirons, au contraire, que c'est pour 8 jours. Et puis, les 8 jours passés, on lui parlera de 8 autres jours, et toujours ainsi jusqu'à ce qu'il y soit accoutumé. Suivez mon conseil, au lieu de flatter toujours la fantaisie d'un enfant que vous avez trop épargné et rendu trop maître chez vous. » Le père Barbeau inclinait à suivre ce conseil, mais la mère Barbeau s'en effraya. Elle craignait que ce ne fût pour Sylvinet le coup de la mort. Il fallut transiger avec elle. Elle demandait qu'on fît d'abord l'essai de garder Landry 15 jours à la maison, pour savoir si son frère, le voyant à toute heure, ne se guérirait point. S'il empirait, au contraire, elle se rendrait à l'avis du père Caillot. Ainsi fut fait. Landry vint de bon cœur passer le temps requis à la Bessonnière, et on le fit venir, sous le prétexte que son père avait besoin d'aide pour battre le reste de son blé, Sylvinet ne pouvant plus travailler. Landry mit tous ses soins et toute sa bonté à rendre son frère content de lui. Il le voyait à toute heure, il couchait dans le même lit, il le soignait comme s'il eût été un petit enfant. Le premier jour, Sylvinet fut bien joyeux. Mais le second, il prétendit que Landry s'ennuyait avec lui, et Landry ne put lui ôter cette idée. Le troisième jour, Sylvinet fut en colère, parce que le sauterio vint voir Landry et que Landry n'eut point le courage de le renvoyer. Enfin, au bout de la semaine, il y fallut renoncer, car Sylvinet devenait de plus en plus injuste, exigeant et jaloux de son oncle. Alors on pensa à mettre à exécution l'idée du père Caillot, et encore que Landry n'eut guère envie d'aller à Arton parmi des étrangers, lui qui aimait tant son endroit, son ouvrage, sa famille et ses maîtres, il se soumit à tout ce qu'on lui conseilla de faire dans l'intérêt de son frère. Chapitre 32. Cette fois, Sylvinet manqua mourir le premier jour. Mais le second, il fut plus tranquille, et le troisième, la fièvre le quitta. Il prit de la résignation, d'abord, et de la résolution, ensuite. Et au bout de la première semaine, on reconnut que l'absence de son frère lui valait mieux que sa présence. Il trouvait, dans le raisonnement que sa jalousie lui faisait en secret, un motif pour être quasi satisfait du départ de Landry. Au moins, se disait-il, dans l'endroit où il va et où il ne connaît personne, il ne fera pas tout de suite de nouvelles amitiés. Il s'ennuiera un peu, il pensera à moi et me regrettera. Et quand il reviendra, il m'aimera davantage. Il y avait déjà 3 mois que Landry était absent et environ 1 an que la petite Fadette avait quitté le pays lorsqu'elle y revint tout d'un coup parce que sa grand-mère était tombée en paralysie. Elle la soigna d'un grand cœur et d'un grand zèle. Mais l'âge est la pire des maladies et au bout de 15 jours, la mère Fadet rendit l'âme sans y songer. 3 jours après, ayant conduit au cimetière le corps de la pauvre vieille, ayant rangé la maison, déshabillé et couché son frère, et embrassé sa bonne marraine qui s'était retirée pour dormir dans l'autre chambre, la petite Fadette était assise bien tristement devant son petit feu, qui n'en voyait guère de clarté, et elle écoutait chanter le grelet de sa cheminée, qui semblait lui dire « Grelet, grelet, petit grelet, toute Fadette a son fadet. » La pluie tombait et grésillait sur le vitrage, et Fanchon pensait à son amoureux, lorsqu'on frappa à la porte, et une voix lui dit « Fanchon Fadet, êtes-vous là et me reconnaissez-vous ?» Elle ne fut point engourdie pour aller ouvrir, et grande fut sa joie en se laissant serrer sur le cœur de son ami Landry. Landry avait eu connaissance de la maladie de la grand-mère et du retour de Fanchon. Il n'avait pu résister à l'envie de la voir, et il venait à la nuit pour s'en aller avec le jour. Ils passèrent donc toute la nuit à causer au coin du feu, bien sérieusement et bien sagement, car la petite Fadette rappelait à Landry que le lit où sa grand-mère avait rendu l'âme était à peine refroidi et que ce n'était l'heure ni l'endroit pour s'oublier dans le bonheur. Mais malgré leur bonne résolution, ils se sentirent bien heureux d'être ensemble et de voir qu'ils s'aimaient plus qu'ils ne s'étaient jamais aimés. Comme le jour approchait, Landry commença pourtant à perdre courage, et il priait Fanchon de le cacher dans son grenier pour qu'il pût encore la voir la nuit suivante. Mais, comme toujours, elle le ramena à la raison. Elle lui fit entendre qu'ils n'étaient plus séparés pour longtemps, car elle était résolue à rester au pays. « J'ai pour cela, lui dit-elle, des raisons que je te ferai connaître plus tard et qui ne nuiront pas à l'espérance que j'ai de notre mariage. Va achever le travail que ton maître t'a confié, puisque, selon ce que ma marraine m'a conté, il est utile à la guérison de ton frère qu'il ne te voit pas encore de quelque temps. Il n'y a que cette raison-là qui puisse me décider à te quitter, répondit Landry, car mon pauvre Besson m'a causé bien des peines, et je crains qu'il ne m'en cause encore. Toi qui es si savante, Fanchonnette, tu devrais bien trouver un moyen de le guérir. Je n'en connais pas d'autre que le raisonnement, répondit-elle. Car c'est son esprit qui rend son corps malade, et qui pourrait guérir l'un, guérirait l'autre. Mais il a tant d'aversion pour moi que je n'aurai jamais l'occasion de lui parler et de lui donner des consolations. Et pourtant, tu as tant d'esprit, Fadette, tu parles si bien, tu as un don si particulier pour persuader ce que tu veux, quand tu en prends la peine, que si tu lui parlais seulement 1 heure, il en ressentirait l'effet. Essaie-le, je te le demande. Ne te rebute pas de sa fierté et de sa mauvaise humeur. Oblige-le à t'écouter. Fais cet effort-là pour moi, ma Fanchon, et pour la réussite de nos amours aussi, car l'opposition de mon père ne sera pas le plus petit de nos empêchements. Fanchon promit, et ils se quittèrent après s'être répété plus de 200 fois qu'ils s'aimaient et s'aimeraient toujours. Chapitre 33. Personne ne sut dans le pays que Landry y était venu. Quelqu'un qui l'aurait pu dire à Sylvinet l'aurait fait retomber dans son mal. Il n'eût point pardonné à son frère d'être venu voir la Fadette et non pas lui. À 2 jours de là, la petite Fadette s'habilla très proprement, car elle n'était plus sans sou ni maille, et son deuil était de belles sergettes fines. Elle traversa le bourg de la Cosse, et comme elle avait beaucoup grandi, ceux qui la virent passer ne la reconnurent pas tout d'abord. Elle avait considérablement embelli à la ville. Étant mieux nourrie et mieux abritée, elle avait pris du teint et de la chair autant qu'il convenait à son âge, et l'on ne pouvait plus la prendre pour un garçon déguisé, tant elle avait la taille belle et agréable à voir. L'amour et le bonheur avaient mis aussi sur sa figure et sur sa personne ce je ne sais quoi qui se voit et ne s'explique point. Enfin, elle était non pas la plus jolie fille du monde, comme Landry se l'imaginait, mais la plus avenante, la mieux faite, la plus fraîche et peut-être la plus désirable qu'il y eût dans le pays. Elle portait un grand panier passé à son bras et entra à la Bessonnière où elle demanda à parler au père Barbeau. Ce fut Sylvinet qui la vit le premier, et il se détourna d'elle tant il avait de déplaisir à la rencontrer. Mais elle lui demanda où était son père avec tant d'honnêteté qu'il fut obligé de lui répondre et de la conduire à la grange où le père Barbeau était occupé à chapuser. La petite Fadette, ayant prié alors le père Barbeau de la conduire en un lieu où elle pût lui parler secrètement, il ferma la porte de la grange et lui dit qu'elle pouvait lui dire tout ce qu'elle voudrait. La petite Fadette ne se laissa pas essautir par l'air froid du père Barbeau. Elle s'assit sur une botte de paille, lui sur une autre, et elle lui parla de la sorte. « Père Barbeau, encore que ma défunte grand-mère eût du dépit contre vous, et vous du dépit contre moi, il n'en est pas moins vrai que je vous connais pour l'homme le plus juste et le plus sûr de tout notre pays. Il n'y a qu'un cri là-dessus, et ma grand-mère elle-même, tout en vous blâmant d'être fière, vous rendait la même justice. De plus, j'ai fait, comme vous savez, une amitié très longue avec votre fils Landry. Il m'a souvent deux fois parlé de vous, et je sais par lui, encore mieux que par tout autre, ce que vous êtes et ce que vous valez. C'est pourquoi je viens vous demander un service et vous donner ma confiance. « Parlez, Fadette, » répondit le père Barbeau. « Je n'ai jamais refusé mon assistance à personne. Et si c'est quelque chose que ma conscience ne me défende pas, vous pouvez vous fier à moi. » « Voici ce que c'est, » dit la petite Fadette en soulevant son panier et en le plaçant entre les jambes du père Barbeau. « Ma défunte grand-mère avait gagné dans sa vie à donner des consultations et à vendre des remèdes plus d'argent qu'on ne pensait. Comme elle ne dépensait quasi rien et ne plaçait rien, on ne pouvait savoir ce qu'elle avait dans un vieux trou de son cellier qu'elle m'avait souvent montré en me disant « Quand je n'y serai plus, c'est là que tu trouveras ce que j'aurai laissé. C'est ton bien et ton avoir, ainsi que celui de ton frère. Et si je vous prive un peu à présent, c'est pour que vous en trouviez davantage un jour. Mais ne laisse pas les gens de loi toucher à cela. Il te le ferait manger en frais. Garde-le quand tu le tiendras. Cache-le toute la vie pour t'en servir sur tes vieux jours et ne jamais manquer. Quand ma pauvre grand-mère a été ensevelie, j'ai donc obéi à son commandement. J'ai pris la clé du cellier et j'ai défait les briques du mur à l'endroit qu'elle m'avait montré. J'y ai trouvé ce que je vous apporte dans ce panier, père Barbeau, en vous priant de m'en faire le placement comme vous l'entendrez, après avoir satisfait à la loi que je ne connais guère, et m'avoir préservé des gros frais que je redoute. « Je vous suis obligé de votre confiance, Fadette, » dit le père Barbeau sans ouvrir le panier, quoiqu'il en fût un peu curieux. « Mais je n'ai pas le droit de recevoir votre argent ni de surveiller vos affaires. Je ne suis point votre tuteur. Sans doute, votre grand-mère a fait un testament. Elle n'a point fait de testament, et la tutrice que la loi me donne, c'est ma mère. Or, vous savez que je n'ai point de ses nouvelles depuis longtemps. » et que je ne sais si elle est morte ou vivante, la pauvre âme. Après elle, je n'ai d'autre parenté que celle de ma marraine Fanchette, qui est une brave et honnête femme, mais tout à fait incapable de gérer mon bien, et même de le conserver et de le tenir serré. elle ne pourrait se défendre d'en parler et de le montrer à tout le monde. Et je craindrais, ou qu'elle n'en fît un mauvais placement, ou qu'à force de le laisser manier par les curieux, elle ne le fît diminuer sans y prendre garde. Car la pauvre chère marraine, elle n'est point dans le cas d'en savoir faire le compte. C'est donc une chose de conséquence, dit le père Barbeau, dont les yeux s'attachaient en dépit de lui-même sur le couvercle du panier. Et il le prit par l'anse pour le soupeser. Mais il le trouva si lourd qu'il s'en étonna, et dit « Si c'est de la ferraille, il n'en faut pas beaucoup pour charger un cheval. » La petite Fadette, qui avait un esprit du diable, s'amusa en elle-même de l'envie qu'il avait de voir le panier. Elle fit mine de l'ouvrir, mais le père Barbeau aurait cru manquer à sa dignité en la laissant faire. « Cela ne me regarde point, dit-il, et puisque je ne puis le prendre en dépôt, je ne dois point connaître vos affaires. » « Il faut pourtant bien, père Barbeau, dit la Fadette, que vous me rendiez au moins ce petit service-là. Je ne suis pas beaucoup plus savante que ma marraine pour compter au-dessus de 100. Ensuite, je ne sais pas la valeur de toutes les monnaies anciennes et nouvelles, et je ne puis me fier qu'à vous pour me dire si je suis riche ou pauvre et pour savoir au juste le compte de mon avoir. » « Voyons donc, dit le père Barbeau qui n'y tenait plus. Ce n'est pas un grand service que vous me demandez là, et je ne dois point vous le refuser. » Alors la petite Fadette releva lestement les deux couvercles du panier et en tira deux gros sacs, chacun de la contenance de 2 000 francs écus. « Eh bien, c'est assez gentil, lui dit le père Barbeau, et voilà une petite dot qui vous fera rechercher par plusieurs. » « Ce n'est pas le tout, dit la petite Fadette. Il y a encore là, au fond du panier, quelques petites choses que je ne connais guère. » Et elle tira une bourse de peau d'anguille qu'elle versa dans le chapeau du père Barbeau. Il y avait 100 louis d'or frappés à l'ancien coin qui firent arrondir les yeux au brave homme. Et quand il les eut comptés et remis dans la peau d'anguille, elle en tira une seconde de la même contenance, et puis une troisième, et puis une quatrième, et finalement, tant en or qu'en argent et menu monnaie, il n'y avait dans le panier pas beaucoup moins de 40 000 francs. C'était environ le tiers en plus de tout l'avoir que le père Barbeau possédait en bâtiment. Et comme les gens de campagne ne réalisent guère en espèces sonnantes, jamais ils n'avaient vu tant d'argent à la fois. Si honnête homme et si peu intéressé que soit un paysan, on ne peut pas dire que la vue de l'argent lui fasse de la peine. Aussi le père Barbeau en eut, pour un moment, la sueur au front. Quand il eut tout compté, « Il ne te manque, pour avoir 40 fois 1 000 francs, dit-il, que 22 écus, et autant dire que tu hérites pour ta part de 2 000 belles pistoles sonnantes, ce qui fait que tu es le plus beau parti du pays, petite Fadette, et que ton frère, le Sauterio, peut bien être chétif et boiteux toute sa vie. Il pourra aller visiter ses biens en carriole. Réjouis-toi donc, tu peux te dire riche et le faire à savoir, si tu désires trouver vite un beau mari. » « Je n'en suis point pressée, dit la petite Fadette, et je vous demande, au contraire, de me garder le secret sur cette richesse-là, père Barbeau. J'ai la fantaisie, laide comme je suis, de ne point être épousée pour mon argent, mais pour mon bon cœur et ma bonne renommée. Et comme j'en ai une mauvaise dans ce pays-ci, je désire y passer quelque temps pour qu'on s'aperçoive que je ne la mérite point. » « Quant à votre laideur, Fadette, dit le père Barbeau en relevant ses yeux, qui n'avait point encore lâché de couver le panier, je puis vous dire en conscience que vous en avez diantrement rappelé et que vous vous êtes si bien refaite à la ville que vous pouvez passer à cette heure pour une très gentille fille. Et quant à votre mauvaise renommée, si, comme j'aime à le croire, vous ne la méritez point, j'approuve votre idée de tarder un peu et de cacher votre richesse, car il ne manque point de gens qu'elle éblouirait jusqu'à vouloir vous épouser, sans avoir pour vous, au préalable, l'estime qu'une femme doit désirer de son mari. Maintenant, quant au dépôt que vous voulez faire entre mes mains, ce serait contre la loi et pourrait m'exposer plus tard à des soupçons et à des incriminations, car il ne manque point de mauvaise langue. Et d'ailleurs, à supposer que vous ayez le droit de disposer de ce qui est à vous, vous n'avez point celui de placer à la légère ce qui est à votre frère mineur. Tout ce que je pourrais faire, ce sera de demander une consultation pour vous, sans vous nommer. Je vous ferai savoir alors la manière de mettre en sûreté et en bon rapport l'héritage de votre mère et le vôtre, sans passer par les mains des hommes de chicane, qui ne sont pas tous bien fidèles. Remportez donc tout ça et cachez-le encore jusqu'à ce que je vous aie fait réponse. Je m'offre à vous, dans l'occasion, pour porter témoignage devant les mandataires de votre co-héritier du chiffre de la somme que nous avons comptée et que je vais écrire dans un coin de ma grange pour ne pas l'oublier. » C'était tout ce que voulait la petite Fadette, que le père Barbeau sut à quoi s'en tenir là-dessus. Si elle se sentait un peu fière devant lui d'être riche, c'est parce qu'il ne pouvait plus l'accuser de vouloir exploiter Landry. Chapitre 34. Le père Barbeau, la voyant si prudente et comprenant combien elle était fine, se pressa moins de lui faire faire son dépôt et son placement que de s'enquérir de la réputation qu'elle s'était acquise à Châteaumeillan, où elle avait passé l'année. Car, si cette belle dot le tentait et lui faisait passer par-dessus la mauvaise parenté, il n'en était pas de même quand il s'agissait de l'honneur de la fille qu'il souhaitait avoir pour bru. Il alla donc lui-même à Châteaumeillan et prit ses informations en conscience. Il lui fut dit que non seulement la petite Fadette n'y était point venue enceinte et n'y avait point fait d'enfant, mais encore qu'elle s'y était si bien comportée qu'il n'y avait point le plus petit blâme à lui donner. Elle avait servi une vieille religieuse noble, laquelle avait pris plaisir à en faire sa société plus que sa domestique, tant elle l'avait trouvée de bonne conduite, de bonnes mœurs et de bons raisonnements. Elle la regrettait beaucoup et disait que c'était une parfaite chrétienne, courageuse, économe, propre, soigneuse et d'un si aimable caractère qu'elle n'en retrouverait jamais une pareille. Et comme cette vieille dame était assez riche, elle faisait de grandes charités, en quoi la petite Fadette la secondait merveilleusement pour soigner les malades, préparer les médicaments et s'instruire de plusieurs beaux secrets que sa maîtresse avait appris dans son couvent avant la Révolution. Le père Barbeau fut bien content et il revint à la Cosse, décidé à éclaircir la chose jusqu'au bout. Il assembla sa famille et chargea ses enfants aînés, ses frères et toutes ses parentes de procéder prudemment à une enquête sur la conduite que la petite Fadette avait tenue depuis qu'elle était en âge de raison, afin que, si tout le mal qu'on avait dit d'elle n'avait pour cause que des enfantillages, on pût s'en moquer. Au lieu que si quelqu'un pouvait affirmer l'avoir vu commettre une mauvaise action ou faire une chose indécente, il eut à maintenir contre elle la défense qu'il avait faite à Landry de la fréquenter. L'enquête fut faite avec la prudence qu'il souhaitait et sans que la question de dot fût ébruitée, car il n'en avait dit mot même à sa femme. Pendant ce temps-là, la petite Fadette vivait très retirée dans sa petite maison, où elle ne voulut rien changer, sinon de la tenir si propre qu'on se fût miré dans ses pauvres meubles. Elle fit habiller proprement son petit sauterio, et, sans le faire paraître, elle le mit, ainsi qu'elle-même et sa marraine, à une bonne nourriture qui fit vitement son effet sur l'enfant. Il se refit du mieux qu'il était possible, et sa santé fut bientôt aussi bonne qu'on pouvait le souhaiter. Le bonheur amenda vite aussi son tempérament, et n'étant plus menacé et tensé par sa grand-mère, ne rencontrant plus que des caresses, des paroles douces et de bons traitements, il devint un gars fort mignon, tout plein de petites idées drôles et aimables, et ne pouvant plus déplaire à personne, malgré sa boiterie et son petit nez camard. Et d'autre part, il y avait un si grand changement dans la personne et dans les habitudes de Fanchon Fadet que les méchants propos furent oubliés, et que plus d'un garçon, en la voyant marcher si légère et de si belle grâce, eût souhaité qu'elle fût à la fin de son deuil afin de pouvoir la courtiser et la faire danser. Il n'y avait que Sylvinet Barbeau qui n'en voulut point revenir sur son compte. Il voyait bien qu'on manigançait quelque chose à propos d'elle dans sa famille, car le père ne pouvait se tenir d'en parler souvent, et quand il avait reçu rétractation de quelque ancien mensonge fait sur le compte de Fanchon, il s'en applaudissait dans l'intérêt de Landry, disant qu'il ne pouvait souffrir qu'on eût accusé son fils d'avoir mis à mal une jeunesse innocente. Et l'on parlait aussi du prochain retour de Landry, et le père Barbeau paraissait souhaiter que la chose fût agréée du père Caillot. Enfin, Sylvinet voyait bien qu'on ne serait plus si contraire aux amours de Landry, et le chagrin lui revint. L'opinion, qui vire à tout vent, était depuis peu en faveur de la Fadette. On ne la croyait pas riche, mais elle plaisait, et pour cela, elle déplaisait d'autant plus à Sylvinet, qui voyait en elle la rivale de son amour pour Landry. De temps en temps, le père Barbeau laissait échapper devant lui le mot de mariage et disait que ses Besson ne tarderaient pas à être en âge d'y penser. Le mariage de Landry avait toujours été une idée désolante à Sylvinet et comme le dernier mot de leur séparation. Il reprit les fièvres et la mère consulta encore les médecins. Un jour, elle rencontra la marraine Fanchette qui, l'entendant se lamenter dans son inquiétude, lui demanda pourquoi elle allait consulter si loin et dépenser tant d'argent quand elle avait sous la main une remégeuse plus habile que toutes celles du pays et qui ne voulait point exercer pour de l'argent, comme l'avait fait sa grand-mère, mais pour le seul amour du bon Dieu et du prochain. Et elle nomma la petite Fadette. La mère Barbeau en parla à son mari, qui n'y fut point contraire. Il lui dit qu'à Châteaumeillan, la Fadette était tenue en réputation de grand savoir, et que de tous les côtés, on venait la consulter aussi bien que sa dame. La mère Barbeau pria donc la Fadette de venir voir Sylvinet, qui gardait le lit, et de lui donner son assistance. Fanchon avait cherché plus d'une fois l'occasion de lui parler, ainsi qu'elle l'avait promis à Landry, et jamais il ne s'y était prêté. Elle ne se fit donc pas se montre et courut voir le pauvre Besson. Elle le trouva endormi dans la fièvre et pria la famille de la laisser seule avec lui. Comme c'est la coutume des remégeuses d'agir en secret, personne ne la contraria et ne resta dans la chambre. D'abord, la Fadette posa sa main sur celle du Besson qui pendait sur le bord du lit. Mais elle le fit si doucement qu'il ne s'en aperçut pas, encore qu'il eut le sommeil si léger qu'une mouche en volant l'éveillait. La main de Sylvinet était chaude comme du feu, et elle devint plus chaude encore dans celle de la petite Fadette. Il montra de l'agitation, mais sans essayer de retirer sa main. Alors la Fadette lui mit son autre main sur le front, aussi doucement que la première fois, et il s'agita encore plus. Mais peu à peu, il se calma, et elle sentit que la tête et la main de son malade se rafraîchissaient de minute en minute et que son sommeil devenait aussi calme que celui d'un petit enfant. Elle resta ainsi auprès de lui jusqu'à ce qu'elle le vit disposé à s'éveiller. Et alors elle se retira derrière son rideau et sortit de la chambre et de la maison en disant à la mère Barbeau « Allez voir votre garçon et donnez-lui quelque chose à manger car il n'a plus la fièvre. Et ne lui parlez point de moi surtout. » Si vous voulez que je le guérisse, je reviendrai ce soir, à l'heure où vous m'avez dit que son mal empirait, et je tâcherai de couper encore cette mauvaise fièvre.